Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux proposée par Michel Lafond. Cette semaine, eh bien, nous avons 7 nouveautés sur les écrans mensaux. Adieu Monsieur Hoffman, Scream, Wistroham, Jane par Charlotte, Vitalina Varella, Placé, Le Signe des Héros. Voilà pour la programmation musicale. J'ai été un petit peu pioché dans Wistroham et dans le film de Charlotte Gainsbourg, Jane par Charlotte. J'aurais pu aller en chercher aussi dans Placé, il y a pas mal de musique contemporaine hip-hop dans Placé, mais c'était trop tard, ma tracklist est déjà prête. On commence par un titre que l'on entend donc dans le film Wistroham, c'est le chanteur Nino. La vie qu'on mène, c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, voilà.
Bientôt j'irai au ciel rejoindre Rimkus le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles en craie. Pas très loin de Malia, elle est chargée sous le maillot. Le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, ben je disparaîtrai comme Houdini. Voyant comme Suleiman, voyant comme Meknes et Jimmy. À deux doigts de péter le million, mais ce PD se fait désirer. Pour l'instant, je suis dans le hall, sous dol, je réfléchis. Qui aura le sourire, un point de bouche si je flanche. Ceux qui parlent fort sont que des baltringues déguisées. J'ai les chaussures qui piquent, j'arrive vers les Champs-Elysées. On peut enlever la vie pour sauver nos réputations. Évitons toutes les tentations, à l'heure qu'il est, je suis dans l'avion. On tire, laisse les plaintes, déjà j'arrive en tête du peloton. Je suis là que pour la plata. Ouais. Le lundi et le mardi, ouais. Le gérant se lève à 5h, ouais. En peur qu'on vienne l'éclater. Y'a rien de facile dans l'argent facile, Zé Pequeno me fascine. 357 Magnum, pas de grappling, y'a la volaille qui applique, on s'échappe. Minuit pété sous chante, demain je serai aux Seychelles. Et pour avoir cette vie là, j'ai remonté les bretelles. Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal. Black Panther, comme la daronne de Tupac, les barreaux ou les tropiques, on prendra l'argent tout pareil. De toute façon, c'est nous les best en vrai. Dealer qui reste tranquille, ou le machin va discuter. Tu veux donner des coups de main à les best. Mon père, j'ai mon papier, j'ai mon équipe, je suis pas dans la mendicité. Élève dissipé d'après le dire du prof. 5 ans plus tard, son fils me demandera une toffe. 500 000 albums plus tard, ma tête a pas gonflé. Le prochain s'appellera Destin, je vais tout vous raconter. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Rimkus le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Oh, oh, oh. Moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milieux. Oh 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 oh. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milieux.
La vie qu'on mène, Nino, un titre que l'on entend dans le film Wistroham. Wistroham, on en parle dans une dizaine de minutes. On commence notre semaine cinématographique avec Adieu Monsieur Hoffman. Adieu Monsieur Hoffman, c'est un film de Fred Cavaillé, réalisateur scénariste né en 67. Il a commencé comme beaucoup par le court-métrage. En 2008, un premier long-métrage qui avait bien marché d'ailleurs pour elle, avec Vincent Lindon et Diane Kruger. 2010 à bout portant avec Gilles Lelouch et Roche Dizem. 2012, il avait réalisé un des segments du film Les Infidèles. 2014, Mea Culpa avec Vincent Lindon et Gilles Lelouch. 2016, changement de registre, on passe à la comédie avec Radin, avec Laurent Sarnay et Danny Boone. Et puis en 2018, Le Jeu avec Bérénice Béjot, Roche Dizem, Stéphane De Grotte, Suzanne Clément. Voilà la filmographie de Fred Cavaillé. Son film Adieu Monsieur Hoffman dure 1h56. Il est proposé au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. Voilà, on est à Paris en 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, Monsieur Hoffman, mais face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages. Une revue de presse comme il se doit, et une revue de presse partagée. West France et Gilles Kerdreux, une leçon d'histoire subtile et terriblement efficace. Barbara Théat dans Le Journal du Dimanche. Fred Cavaillé change de registre et d'époque pour ce film noir, adapté de la pièce Aux quatre Molières de Jean-Philippe Daguerre, qui raconte dans une mise en scène certes classique mais élégante et tendue les côtés obscurs de notre histoire comme de l'être humain. Jean-Luc Verstehausen dans Le Point parle d'une tragédie bouleversante. Yann Tobin dans Positif, résultat un thriller de chambre à résonance sociale reposant sur un suspense narratif artificiel mais efficace et sur d'excellents solistes. Gilles Lelouch est un très convaincant salaud malgré lui. Daniel Auteuil dans le rôle du joaillier est à son apogée taiseux, tandis que Sarah Giraudeau apporte à sa partition une richesse et une profondeur qui n'étaient pas évidentes sur le papier. Olivier Delcroix dans Le Figaro, Fred Cavaillé signe un drame historique tout en nuances porté par trois excellents comédiens. Julien Barcillon dans Télé 7 jours, La naissance d'un salaud. Voilà ce que Fred Cavaillé radiographie avec subtilité, pas à pas, dans ce huis clos historique adapté de la pièce de Jean-Philippe Daguerre. L'Obs, François Forestier, Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudeau suscitent une émotion qui sans eux serait moins évidente. Thierry Chasse dans Première, un sujet fort, riche en personnages ambigus et en rebondissements finement distillés, porté par un épatant trio d'acteurs qui pâtit juste de la difficulté du cinéaste à se défaire de la pesanteur de la reconstitution historique, même si le huis clos lui permet de s'en affranchir un maximum. Jacques Mandelbaum, pour lui, est bien dans Le Monde, la mayonnaise ne prend pas. Et Marie Sauvio dans Télérama doit être à peu près d'accord avec lui, puisqu'elle déclare entre reconstitution appliquée, coup de théâtre et cliché, Adieu Monsieur Hoffman pâtit cruellement de la comparaison avec Monsieur Klein de Lozé et Le Dernier Métro de Truffaut. Voilà ce qu'on peut dire sur Adieu Monsieur Hoffman, le film proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. On est donc à Paris en 1941, au temps de l'occupation, et Monsieur Hoffman est un artisan joaillier juif qui tient boutique avec son nouvel employé, François Mercier, marié et très amoureux de sa jeune femme Blanche, à laquelle il ne peut faire, malheureusement, un enfant, ce qu'elle souhaite pourtant profondément. Vu la situation politique, M. Hoffman propose à Mercier un arrangement, lui vendre sa boutique le temps de la guerre afin de lui permettre de fuir avec sa famille en zone libre. Alors, si M. Hoffman parvient à faire passer femme et enfant, lui-même n'y arrive pas. Aussi doit-il revenir chez lui et Mercier, acceptant de l'héberger dans la cave, très vite lui propose un singulier marché qui aura bien des conséquences pour lui, sa femme et M. Hoffman. Voilà, c'est un film qui renouvelle avec un certain brio et en tous les cas originalité la thématique des films sur l'occupation et la persécution des Juifs et plus précisément d'ailleurs la spoliation de leurs biens grâce à un scénario habile, intelligent, aux nombreux rebondissements. Le film est le portrait de trois personnages dont l'existence va être bouleversée par les circonstances incarnées par trois acteurs magnifiques. Sarah Giraudeau, femme à la fois fragile et volontaire, ambitieuse et amoureuse, puis bouleversée par l'évolution des événements et de son mari. Daniel Auteuil, lui, c'est M. Hoffman, un homme piégé dans un stratagème qu'il a élaboré mais qui lui échappe. Et puis surtout, il y a Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, exceptionnel une fois encore dans ce rôle de brave type qui devient un sale type, cupide, profitant des circonstances, d'abord à son corps défendant, puis plongeant petit à petit dans l'abjection, sans vraiment s'en rendre compte, et il le fait autant par amour que par appât du gain, trahissant la confiance de son patron. Alors la réalisation, certes, est sobre, mais elle est quand même super de précision et de maîtrise pour ce film. Alors ce film est inspiré de la pièce de théâtre de Jean-Philippe Daguerre. Je dis inspiré parce que c'est le point de départ qui est identique, le film diffère ensuite fortement de la pièce par son ton dramatique. La pièce, moi, j'avais vu la captation, elle ne m'avait pas paru aussi dramatique. Il y avait même un côté un peu comédie dans le film. Mais en l'état, voici un excellent film, grave et intense dans sa dramaturgie. Et c'est un film que je ne peux que recommander aux gens qui aiment les films de facture classique, avec de très bons acteurs et une histoire solide. Voilà. Adieu, Monsieur Hoffman, proposé par le Pathé Quinconce, le Méga CGR et le Colisée. Scream, là, cette fois-ci, c'est uniquement le Pathé Quinconce et le Colisée. Ah non, aussi, le Méga CGR, pardon. Et au Pathé Quinconce, il y a une séance en version originale par jour. Une Scream, donc. Scream, c'est un film réalisé par un duo de réalisateurs, Matt Bettinelli-Holpin, ou Holpin, je ne sais pas comment on doit dire, et Tyler Gillette. Ces deux personnages sont réalisateurs, producteurs et même acteurs à l'occasion. Jusqu'à maintenant, tous leurs films ont été diffusés sur le grand écran. Oui, je suis un peu perdu là. En 2012, VHS. C'est le titre, hein, VHS. 2014, The Baby avec Alison Miller. Et en 2019, Wedding Nightmare avec Adam Brody. C'était bien sanglant et bien gore, Wedding Nightmare. Je me souviens de l'avoir vu et d'avoir relativement apprécié. Donc voilà, trois films jusqu'à maintenant sortis. Et puis ce Scream, d'une durée de 1h55, qui est interdit au moins de 16 ans. Ça se comprend parce que ça gicle côté sang sérieusement. Au cours de ces 1h55 de film, 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Oui, alors le masque de Ghostface, il est quand même bien connu. C'est ce masque qui est inspiré du titre du tableau de Munch, Le Cri. Hein, voilà, vous voyez à peu près ce que c'est. La rue de presse, ils n'ont pas aimé les critiques. À part Michel Valentin dans Le Parisien, tous les autres tirent à boulet rouge sur Scream. Le Parisien, donc Michel Valentin, cinquième volet d'une saga entamée il y a presque un quart de siècle. Ce nouvel opus reprend fidèlement l'univers et les règles établies lors des précédents épisodes et fait revenir des valeurs sûres de la franchise horrifique, comme les acteurs Courtney Cox, Neve Campbell et David Arquette. 20 minutes, Caroline Vier. Oui, elle aussi, elle a apprécié. Le film rend un hommage à la saga devenue culte, ainsi qu'à son réalisateur disparu Wes Craven, et continue sa mise en abîme sur le genre et sur Hollywood. Et c'est là que ça se gâte maintenant. Cinématiseur, Renan Crowe. Au final, le Scream 4, il y a 10 ans, mené par Craven et Williamson, apparaît beaucoup plus contemporain et malin que ce cinquième volet qui, à force de faire le malin, est déjà un peu périmé. La rédaction d'écran large, une course contre la montre parfaitement morne et désespérante qui confirme encore une fois que Scream aurait dû rester une trilogie. Philippe Gage le point, et malgré tous les efforts parfois payants de ces deux réalisateurs commis d'office, Scream 2022 ressemble à un film musée qui jongle frénétiquement avec moult second couteau du passé pour retrouver l'âme perdue d'un concept jadis bien plus tranchant. Théo Ribeton dans Les Inoccupables, le nouveau volet de la saga de Feu Wes Craven tombe exactement là où on l'attend, dans un salmigondi méta-référentiel qui est hélas devenu l'entrée de gamme la plus basique du film de franchise, qu'il ne fait même pas semblant de vouloir renouveler. Et enfin, Lelo Jimmy Battista dans Libération, la suite de la franchise initiée en 1996, hurle le déjà-vu, sans suspense et sans ménagement pour le spectateur largué dès le début. Eh bien, moi, j'ai vu Scream, et je l'ai même vu en version française, et elle n'est pas si épouvantable que ça, cette version française. Scream, c'est ce qu'on appelle un requel. Et oui, j'ai appris ce mot en allant voir le film. Qu'est-ce que c'est qu'un requel? Eh bien, c'est un mélange de reboot, re, et quel, c'est quel, c'est-à-dire un redémarrage et mixé avec une suite. Voilà, ça s'appelle un requel. Voilà, vous serez plus intelligent désormais en sachant ce qu'un requel. Et la définition fonctionne parfaitement pour ce film, un film qui est ultra référencé, qui remet sur les écrans Scream. Un film qui, à l'époque de sa sortie, il y a 25 ans, donc, avait complètement renouvelé le genre du slasher, faisant preuve d'une ironie et d'un second degré fort bien vu et fort bien apprécié. Le film, donc, c'est un requel, mais c'est aussi une mise en abîme. Voilà, on peut dire ça, puisqu'on retrouve ici toutes les références de Scream numéro 1. Alors, le seul défaut du film, c'est que... il n'est plus du tout original. Hein. Est-ce qu'il était indispensable de faire un cinquième, bon, financièrement peut-être, je ne sais pas. Bon, sinon, il me paraît quand même important d'avoir vu l'original, ou en tous les cas, d'en avoir sérieusement entendu parler. On risque de passer à côté de beaucoup, beaucoup de rappels du passé. Bon, sinon, donc, on est 25 ans après, on se retrouve en terrain inconnu dès la première scène, qui est un quasi copier-coller de la première scène du Scream originel. Le film réutilise donc tous les codes, les démonte à nouveau comme dans l'original. Il mêle nouveaux personnages. C'est l'inévitable bande d'adolescents qui vont sévèrement morfler, et quelques anciens de la saga. Donc, on les a cités, Arquette, Courtney Cox, Nevy Campbell. Les meurtres du Ghostface sont évidemment extrêmement sanglants, comme à l'accoutumée, d'où l'interdiction au moins de 16 ans. Le but du jeu, c'est de savoir qui se cache derrière le masque et donc qui est le coupable des meurtres, quelles sont ses motivations, le tout en multipliant les rebondissements et les coups de théâtre durant près de 2 heures. Bon, c'est totalement invraisemblable, bien entendu, mais personne ne va voir Scream en espérant la moindre vraisemblance. Donc c'est tout à fait distrayant, pour peu qu'on goûte ce genre de film. C'est très efficace, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est un hommage, pour moi, réussi. On peut aussi trouver cela parfaitement vain, j'en suis tout à fait d'accord. C'est aussi la preuve d'un manque d'imagination des scénaristes hollywoodiens qui sont condamnés à reprendre les mêmes recettes comme il y avait eu il y a peu de temps un nouvel Halloween. Mais bon, ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleure soupe. Voilà, donc Scream, c'est uniquement pour les amateurs du genre, c'est interdit au moins de 16 ans et c'est possible de le voir au Pathé, au Méga CGR et au Colisée. Voilà, bien, avant de parler de Jane par Charlotte, eh bien, un titre que l'on entend dans le film, en fait c'est le titre que l'on entend sur le générique de fin de Jane par Charlotte, c'est Jane Birkin qui chante « Je voulais être une telle perfection pour toi » sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Voilà, donc...
Oui, tout à fait familière. Tu t'en souviens ? Les murs brillaient comme des toilettes publiques. Paris s'ouvrait devant nous comme un coffre à bijoux. Fini la vie de bonne sœur, me voilà défroquée. C'était bien quand même tous les trois ensemble. Il te faisait rire. Comme j'aimais ça, lui et toi, même quand vous vous voyez sans moi. Quand j'étais partie, je prends trop de place. Même pour moi, je prends trop de place. Je voulais être une telle perfection pour toi. Je voulais être une telle perfection pour toi. Je vais nulle part. Je m'échappe pas. Je ne bougerai pas jusqu'au lever du jour si tu me le demandes. Je voulais être sage pour qu'on m'aime. Courageuse pour qu'on m'admire. J'ai sauté du toit pour papa. Je faisais le gay pour mon frère alors que je mourais de peur. Je regrette que tu m'aies pas vue quand j'étais enfant. J'étais violente aussi, j'ai cassé la tête de mon frère avec un pomme de pain. Je me suis cachée dans un arbre et je l'ai visé parce qu'il se moquait de moi. J'ai même tué pour toi. Je suis devenue un assassin. Je voulais être une telle perfection pour toi. Je voulais être une telle perfection, pour toi, pour toi. Je t'ai regardé si fort dans le noir que tu aurais dû sursauter au milieu de tes rêves. Dors, tu m'emmerdes. Je t'ai hais. Tu m'as tué. Tu en as tué d'autres. Les cadavres, ils ne reviennent pas la nuit pour te soulever les paupières. Autrefois, je te faisais rien. Je voulais être celle que tu aimes le mieux. Non, je te réveillerai pas de ton sommeil égoïste. Pour te dire quoi ?
Je voulais être une telle perfection pour toi, Jane Birkin, et c'est la chanson qu'on entend sur le générique de fin de Jane par Charlotte. Jane par Charlotte, c'est bientôt. D'abord, c'est Wistreham. Wistreham, c'est un film d'Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, réalisateur scénariste né en 1957, mais aussi auteur de romans. Il a déjà réalisé des longs-métrages. En 2003, un documentaire « Retour à Kotelnitch » et en 2005 « La moustache » avec Vincent Lindon, Emmanuel DeVos et Mathieu Amalric. Mais certains de ses livres, comme « L'adversaire », ont déjà été adaptés au cinéma. Wistreham s'est proposé par les cinéastes et par le pâté quinconce. Wistroham, ça dure 1h46. Marianne Winkler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide, la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. Alors, qu'en pense la presse? Eh bien, Caroline vient dans 20 minutes. Le film Wistroham est un miracle de cinéma social dans la lignée d'un Ken Loach. Le journal du dimanche, Stéphane Joby, au-delà du drame social à la Ken Loach, ça va revenir souvent comme référence, qu'ébauche les premières scènes, il creuse son attrait pour le mensonge et la duplicité en fictionnant les états d'âme de son héroïne, coincée dans une relation qui ne peut que tourner à la trahison. Le Parisien, si le film est si fort, c'est qu'outre la prestation remarquable de Juliette Binoche dans le rôle de Marianne Florence, le réalisateur a eu l'idée d'embaucher en tête d'affiche de véritables travailleuses locales qui jouent leur propre rôle, donnant à son œuvre un incroyable vernis d'authenticité. Olivier de Bruyne dans Les Échos, singulier, Wistroham est à la fois un film social puissant et une œuvre infiniment personnelle. Gilles Kerdreux dans West France, un film utile, proche du documentaire, poignant et instructif. La rédaction d'Écran large, le film reste néanmoins une étude sociologique assez passionnante, mais dont l'ambivalence du point de vue étouffe un peu l'émotion. Sandra Onana dans Libération, pas du tout dénué de mérite, Wistroham se distingue surtout par son souci de ne trahir personne quand il chemine dans son paradoxe selon lequel il serait possible de mentir sans tricher. Isabelle Magnier, Télé 7 jours, les actrices presque toutes non professionnelles apportent vérité, justesse et humour à un film qui aurait mérité un scénario plus tenu. Jacques Mandelbon dans Le Monde, en voulant dénoncer l'aliénation des femmes de ménage, Emmanuel Carrère éclipse son sujet. Wistroham, 1h46, proposé donc par le pâté quinconce et par les cinéastes. C'est l'adaptation sous forme de fiction du livre témoignage de Florence Aubenas. C'est donc l'histoire de Marianne. Marianne, elle est romancière et elle décide, pour parler du chômage, de la précarité et des boulots peu qualifiés et sous-payés que doivent exercer plein de gens, et notamment des femmes, pour vivre, eh bien, elle décide de s'infiltrer, entre guillemets, de façon anonyme et de vivre la vie quotidienne de ces gens-là. Donc, je répète, surtout des femmes, mais il y a aussi quand même des hommes. Mais le film aussi développe un second thème tout aussi intéressant, celui de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, avec les conséquences que cela peut avoir, donc le thème de l'imposture, on va dire. Voilà. Le film montre parfaitement cette ambiguïté, Marianne sachant parfaitement qu'à tout moment, elle peut arrêter cette vie infiltrée et retrouver son existence que l'on imagine forcément confortable, avec le risque de trahir ceux qui sont devenus des amis. Mais quand même, dans sa première partie, au moins, le film est avant tout un témoignage quasi documentaire de ce travail des agents d'entretien avec leurs dures conditions de travail, fatigue physique, fatigue psychologique, horaires impossibles, faible salaire qui oblige à compter pour tout, à accepter tous les boulots. Alors ici, il est surtout question des femmes de ménage qui nettoient les bureaux quand ils sont vides, c'est-à-dire très tôt le matin ou très tard le soir, font les sanitaires et le ménage des bungalows d'un camping et surtout celui des cabines, des ferries, partant de Wistroham vers l'Angleterre avec des cadences de travail infernales puisqu'elles ont 1h30 entre deux rotations de ces ferries. Voilà, donc l'intelligence du film, c'est de montrer les choses de façon brute et ne tomber dans aucun des pièges tendus par ce genre de film. Ici, il n'y a pas une histoire d'amour factice, il n'y a pas de méchant patron exploiteur, pas de sale contremaître vicieux, juste la dure vie quotidienne, mais aussi la débrouille obligée, par exemple pour pouvoir se déplacer quand on n'a pas le permis de conduire, par exemple, la solidarité, les moments de joie aussi. Le film est quand même néanmoins une fiction par rapport au livre de Florence Aubenas, une fiction par rapport au livre, et centre son propos sur l'amitié entre Marianne et une de ses femmes qu'elle va côtoyer au quotidien. Alors ce procédé permettant d'observer l'existence de tous les jours de ce qu'on appelle donc les invisibles. Voilà, c'est un film parfaitement réussi, filmé avec beaucoup de sobriété. Juliette Binoche est parfaitement crédible dans un contre-emploi total. Hein. Juliette Binoche est connue, c'est une grande bourgeoise. Hein. Et elle est entourée de non-professionnels dont certains jouant leur propre rôle. Moi, c'est un film que je vous encourage à aller voir vivement, que ce soit au cinéaste ou au pâté quinconce, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et un film, ma foi, fort intéressant. Voilà, Wistroham, un film que l'on peut voir et qui dure 1h46. Jane par Charlotte, là, cette fois-ci, C'est uniquement au cinéaste qu'on peut voir ce film, qui est un documentaire de Charlotte Gainsbourg, actrice, bien entendu, chanteuse, et ici, réalisatrice, née en 71. C'est son premier long-métrage, on l'a vu actrice il n'y a pas si longtemps que ça, dans Les choses humaines, et puis dans des films comme Mon chien stupide, Susanna Handler, La promesse de l'aube, pour ne parler que des plus récents. Voilà, donc, Jane par Charlotte, ça dure 1h30. Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l'avait jamais fait. La pudeur de l'une face à l'autre n'avait jamais permis un tel rapprochement. Mais, par l'entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit sur plusieurs années. Alors là, c'est pas sûr que ce soit sur plusieurs années. Hein. Ça m'a paru être sur un laps de temps beaucoup plus court que plusieurs années. Qui efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime, inédite et universelle pour laisser apparaître une mère face à une fille, Jane par Charlotte. Là, tous les critiques ont apprécié. Caroline Vie dans 20 minutes, la comédienne révèle un beau talent de cinéaste dans Jane par Charlotte. Elle touche à l'universel en explorant leur relation. Elle, le journal Elle, un émouvant tête-à-tête sur les non-dits entre mère et fille, plein de tendresse. Corinne Renouvelle-Lacroix, Charlotte Gainsbourg consacre à sa mère Jane Birkin son premier film. Plus qu'un portrait, il se situe dans l'émouvante intimité du tête-à-tête où chacune se confie à l'autre avec pudeur. Stéphane Joubi dans le journal du dimanche, on se sent d'abord de trop, frappé par l'impudeur de cette thérapie familiale, mais les deux femmes réussissent à faire de leur intimité partagée un patchwork universel de grâce et de douceur. Adrien Gombeau, Les Échos, Charlotte Gainsbourg filme Jane Birkin, un documentaire intime et délicat qui raconte autant l'amour maternel que le temps qui passe. Thierry Chesse dans West France parle d'un magnifique film sur la transmission. Isabelle Magny dans Télé 7 jours déclare « Joli, tendre, émouvant, intelligent, une réussite que ce film ». Thierry Chesse dans première, ici le titre le plus approprié serait « Charlotte par Jane » et inversement, et on en ressort le sourire aux lèvres et les yeux embués. Voilà donc une critique qui est élogieuse et unanime. Jane par Charlotte, on peut légitimement se demander si un documentaire de cette nature a un réel intérêt à être porté sur le grand écran et donc à être vu par le public. Mais après tout, pourquoi pas hein. Alors certes, Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg sont des personnalités publiques, encore quand même faut-il connaître un minimum de choses sur elles, sur leurs maris, sur leurs enfants respectifs, pour bien tout saisir, parce que si vous n'êtes pas au courant, déjà vous n'irez probablement pas voir le film, ça c'est possible, mais vous risquez d'avoir des problèmes entre les enfants des unes et les enfants des autres. Mais bon, le spectateur se place ici dans une position de voyeur, en quelque sorte, en regardant ces confessions intimes entre une mère et sa fille. Mais si on fait abstraction de la célébrité des deux femmes, eh bien on y retrouvera quelque chose d'universel, comme l'ont souligné quasiment tous les critiques, quelque chose d'universel malgré tout dans l'évocation de ces relations, pas forcément d'ailleurs toujours harmonieuses et simples entre elles. Hein. C'est cela qui fait peut-être d'ailleurs l'intérêt de la chose, l'intérêt du film. Alors oui, c'est forcément émouvant, de même que l'émotion est là quand, par exemple, toutes les deux visitent la maison de Serge Gainsbourg à Paris, rue de Verneuil, où Jane n'était plus revenue depuis très longtemps, pratiquement depuis qu'elle avait quitté Serge Gainsbourg. Le film parle donc de sentiments filiales, d'amour maternel, des non-dits qui ont pu exister entre elles depuis longtemps et qui le fait avec retenue et pudeur. On n'est pas du tout dans le déballage, hein, comme cela pourrait être le cas entre si on avait voulu faire quelque chose d'un petit peu people. Non, c'est pas du tout ça. On est dans la relation entre qui pourrait être la relation entre n'importe quelle fille et sa mère, sans la présence d'une caméra, évidemment. Donc le film évoque aussi le temps qui passe, les petites ou grandes angoisses liées à ce temps qui passe. C'est filmé un petit peu, il faut reconnaître, à la va comme je te pousse. Hein. Il y a parfois aussi des choses inutiles ou sans grand intérêt, notamment un passage sur le chien de Jane Birkin, qui n'est pas paru absolument fondamental, même si on aime beaucoup les chiens. Sans doute pour rendre compte d'instants pris sur le vif, voilà, on va dire. Hein. On ne sait pas si cette façon de filmer, c'est un style volontaire ou simplement la maladresse d'une cinéaste débutante, mais ça donne un côté spontané, un côté peu apprêté, plein de douceur, d'amour réciproque, de nostalgie. Alors, est-ce indispensable à voir ? Bon, clairement non, mais on peut quand même y aller sans crainte d'ennui. Et puis bon, ça ne dure pas trop longtemps, 1h30. Et je répète, ça peut avoir un côté universel parce que c'est la relation entre une fille et sa mère et une mère et sa fille. Voilà, Jane par Charlotte. Le film est proposé par exclusivement les cinéastes. Voilà. Toujours au cinéaste, Vitalina Varela. Vitalina Varela, c'est un film de Pedro Costa. Pedro Costa, c'est un réalisateur, scénariste, directeur de la photo et producteur portugais. Il a à son actif pas mal de films, mais qui me paraissent la plupart inédits en France. J'en ai pas retrouvé la trace de sortie avec une date précise, mais il a quand même réalisé, par exemple, en 89, Le Sang, avec Inès de Medeiros et Luis Miguel Sintra. 94, La Maison de Lave, avec Edith Scob, Inès de Medeiros. Et puis aussi, en 97, Ossos. 2000, dans La Chambre de Vanda, un documentaire. Ensuite, en 2006, En Avant Jeunesse. En 2009, Ne Change Rien, un documentaire. Je dois avouer que, sans la moindre honte d'ailleurs, je ne pense pas avoir vu de film de Pedro Costa jusqu'à maintenant. Le film de Pedro Costa donc, dure 2h04, Vitalina Varela. C'est une capverdienne de 55 ans. Elle arrive à Lisbonne 3 jours après les obsèques de son mari. Elle a attendu son billet d'avion pendant plus de 25 ans. Qu'en pense la presse? Eh bien, la presse semble avoir apprécié le film. Philippe Azzouri dans Les Irrecuptibles. Vitalina Varela est un film d'espoir. Il traverse la longue nuit de l'homme et se finit dans la lumière, dans un ailleurs. Bon, ça ne dit pas grand-chose sur le film. Léo, Lélo, Jimmy Battista et Sandra Onada dans Libération. Un film à la fois étouffant et immense, dont on sort épuisé et exalté, qu'on traverse moins qu'il ne nous traverse. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, il y a ici une terrible fatalité, mais aussi des éclats de tendresse et même quelques gags bon enfant. Jacques Maurice dans Télérama, c'est une œuvre de feu et de froid qui réclame assurément d'être vue sur grand écran. Elle n'est pas facile de prime abord, mais l'envoûtement profond qu'elle suscite vaut largement qu'on s'y attarde. Eh bien, moi, je ne suis pas allé voir Vitalina Varela, mais que ça ne nous empêche pas de le faire, c'est proposé par les cinéastes avec peu de séances par jour, une ou deux séances par jour, Vitalina Varela. Voilà, allez, petite pause musicale, on revient dans la bande-son du film Wistram, on entend Soprano chanter Cosmo sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Oui, ça va commencer, ne vous inquiétez pas, pas de blanc. Cosmo Soprano, un titre que l'on entend dans Wistrun, dans une scène de boîte de nuit, dans le film de Emmanuel Carrère. Placé, c'est un film français de Nessim Chikaoui. Nessim Chikaoui, c'est son premier long métrage, mais on le connaît comme scénariste des Tuches 2, 3 et 4, et aussi du film Le Doudou, avec Cadmerade notamment. C'est un réalisateur et scénariste français. Son film est proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce, durée 1h51. Parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d'entrée à Sciences Po. À la recherche d'un job, en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une maison d'enfants à caractère social. Olivier Delcroix dans Le Figaro, pas d'optimisme béat dans ce film social, mais une petite musique du vécu qui séduit par sa sincérité attachante. La Réduction de Ouest-France, une comédie sociale attachante, révélant la comédienne Lucie Charles-Alfred. L'Obs, Sophie Grassin, malgré un script prévisible, Nessim Chikaoui, co-scénariste des Tuches, met de la nuance, de la chaleur et du cœur à l'ouvrage. Frédéric Strauss dans Télérama a placé, recréer une bulle réparatrice pour transmettre l'essentiel, la possibilité dans l'isolement que représente d'abord le placement, de renouer des liens. C'est dit avec des maladresses et un optimisme à l'emporte-pièce sûrement simplificateur, mais l'humour, la vivacité, la générosité racontent un vrai partage qui peut tout changer. L'éloge Jimmy Battista dans Libération, esthétiquement raté et souvent superficiel, le film de Nessim Chikaoui sur une maison d'accueil pour ados a le mérite de révéler plusieurs jeunes acteurs. 1h51 pour ce film, donc, qui est un premier film proposé par le Pâté Quinconce et par le Méga CGR. Donc, Elias, c'est un jeune gars de banlieue. Donc, comme on vous le dit dans le synopsis, il a oublié sa pièce d'identité et donc ne peut pas passer l'oral de Sciences Po. En attendant l'an prochain, eh bien, de pouvoir se représenter, il écoute le conseil d'un pote et il se fait engager comme éducateur dans un foyer de jeunes en difficulté. Ils sont placés là par l'aide sociale à l'enfance. Alors, il découvre le métier d'éducateur, et puis les ados à problème, ou plutôt avec des problèmes, comme on dit plusieurs fois dans le film, puis les collègues pleins de bienveillance qui sont chargés de les encadrer. Alors, incontestablement, le film fait preuve d'un dynamisme à toute épreuve. Il est bourré d'énergie, bourré d'enthousiasme, peut-être même un petit peu trop. Les personnages de ce film, choral et social à la fois, un film alternant d'ailleurs moments de tension et de comédie, comédie parce que notamment les scènes avec les potes d'Elias, eh bien ce film choral et social est un film certes attachant, mais sans doute peut-être un petit peu trop cliché. Finalement, le film multiplie les situations attendues. S'achève dans un optimisme qui m'a paru quand même un peu niaiseux, un peu béat. Mais bon, c'est ce qu'on appellerait un feel-good movie, donc il faut que ça se termine bien, que tout le monde ait résolu ses problèmes. Voilà, donc, les jeunes acteurs qu'on a souvent vus dans d'autres films sur la banlieue ou certains, comme les potes de Elias dans des scènes de stand-up, il y a le fameux Jimo, par exemple, eh bien, ces jeunes acteurs font leur job, ils font preuve de naturel, de tchatch, sont vraiment tout à fait au diapason avec le ton du film. Difficile de reprocher au réalisateur, semble-t-il quand même bien documenté, puisque lui-même a été éducateur pendant une dizaine d'années. Difficile de lui reprocher ses bonnes intentions, son message humaniste, positif. Mais est-ce que dans la réalité, les choses finissent toujours aussi bien pour tout le monde? On peut quand même un petit peu en douter. Alors donc, le film suscitera peut-être au moins des vocations d'éducateur, tellement le métier semble passionnant. Et surtout, il me semble qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. Placé, donc, un film proposé par le Méga CGR et le Pâté Quinconce. Le Signe des Héros. Le Signe des Héros, c'est un film de Claude Sossereau. Alors, la particularité de ce film, c'est qu'il a été tourné dans la Sarthe et que Claude Sossereau est un Sartois, réalisateur, scénariste et monteur. C'est son premier long métrage. Une durée d'1h16. Un enfant, à la recherche de son père, découvre par hasard que son nouveau voisin porte un bracelet électronique à la cheville. Pensant avoir affaire à un super-héros, l'enfant met tout en œuvre pour gagner la confiance de celui-ci afin qu'il l'aide à retrouver son père. Alors, je ne sais pas si le film a été distribué en dehors de la province. Je ne sais pas s'il a été distribué à Paris. En tous les cas, il n'y a pas de revue de presse parce que la presse ne parle pas de ce film de Claude Sossereau. Et je ne suis pas certain que le film soit sorti encore à Paris. Bon, en tous les cas, il est sorti à plusieurs reprises en province. On peut le voir au cinéaste avec une séance par jour et il y a quelques séances aussi, me semble-t-il, au Méga CGR. Claude Sossereau est venu proposer ce film en avant-première. Il a assisté et il a répondu aux questions de spectateurs au cours d'avant-première. Alors, il faut savoir que ce film n'était pas un film maudit. Ça serait quand même bien dramatique de dire ça, mais c'est un film qui devait sortir l'année dernière, à peu près au même moment, mais en pleine fermeture des cinémas. Donc, son film a été repoussé. Et le film date, en fait, de 2018. Donc, c'est avant tout un film, à mon avis, plutôt pour un jeune public, disons, des pré-ados, puisque l'histoire est celle de Lola. Lola, elle a 8-9 ans. C'est une enfant délurée, joyeuse, espiègle, pleine de fantaisie. Elle est élevée par sa mère dans un petit village à la campagne et le père est absent. Donc on cherche tout à fait vraiment pourquoi il est absent. Mais enfin bon. Justement, cette figure du père faisant défaut, eh bien Lola va s'intéresser à un mystérieux voisin venu s'installer récemment près de chez elle. Elle s'imagine qu'il a des super pouvoirs parce qu'elle a mal compris une conversation où l'agent probatoire de ce gars vient de lui installer un bracelet électronique et la petite fille de 8-9 ans n'a pas tout à fait saisi de quoi il en retournait. Alors, c'est donc un film vu à travers le regard de Jade, et de son copain Émile. C'est un film un peu naïf, gentillet, où l'absence de moyens est patente, hein, avec ses seconds rôles un petit peu pâteaux, maladroits, d'où surnage quand même les deux interprètes principaux, les deux gamins. Eux, par contre, la petite Lola est parfaite. Bon, et donc, voilà, un scénario pas toujours maîtrisé, avec des trous dans le récit, une volonté manifeste de poésie, mais on le sait, moi je suis guère sensible à la poésie. Bref, je n'ai pas vraiment été saisi par ce film, mais je ne suis clairement pas le public auquel le film s'adresse en priorité. Je répète, c'est un film qui devrait plaire beaucoup à des adolescents, ou plutôt des pré-adolescents, 8-9 ans, parce que des adolescents, on n'est plus déjà dans leurs préoccupations, c'est plutôt des pré-ados. Voilà, donc un film qu'on peut voir, et c'est un film réalisé par un régional de l'étape, comme on dit, en cyclisme. Voilà, Le Signe des héros. Allez, Pleasant, c'est le dernier titre de notre semaine cinématographique. C'est un titre qu'on entend au début du film Jane par Charlotte. C'est un titre de Sébastien dans lequel on peut entendre justement Charlotte Gainsbourg. Pleasant sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. C'est tout de suite. We'll be right back. Pleasant Sébastien avec Charlotte Gainsbourg. Voilà, pour être tout à fait complet, signalons que cette semaine, il y avait au cinéaste le festival Hanabi avec tous les soirs à 20h30 un film japonais inédit ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà, donc, et puis peut-être si vous êtes fan de Jane Birkin ce soir, elle propose son spectacle Oh pardon, tu dormais à l'Espal. Voilà, donc. Je ne sais pas s'il reste des places ou si c'est annulé ou quoi. Enfin, je ne pense pas que ce soit annulé parce qu'il n'y a pas une jauge à 2000 là-dedans. Donc, peut-être que vous pouvez aller voir Jane Birkin ce soir à l'Espal. Pas à l'Espal, au Quinconce, pardon. Au théâtre du Quinconce. Les films à l'affiche la semaine prochaine. Alors déjà, pour les avant-premières, dimanche 16 à 11h, Oméga, il y a Vaillante. C'est un dessin animé qui sortira dans 2-3 semaines. Et puis, si vous êtes vraiment fan, il y a également l'avant-première de Tendre et saignant de Christopher Thompson. Pourquoi vraiment fan? L'avant-première de Tendre et saignant de Christopher Thompson. Lundi soir à 20h, Oméga. Et mardi soir, alors là, c'est à 21h15, ou 21h15, Nightmare Alley. C'est juste en VF, en plus, au Pâté Quinconce. Signalons également, mais là, il faut peut-être retenir ses places, que le Palmacho vient présenter, c'est-à-dire... Grégoire Ludig et David Marsay viennent présenter leur film Les Vedettes jeudi 20 à 20h45 Oméga, donc il est prudent éventuellement de réserver. Et puis sinon, les films à l'affiche de la semaine prochaine, eh bien, il y aura Nightmare Alley de Guillermo del Toro, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc Tendre et saignant, si vous n'avez pas la patience d'attendre mercredi, eh bien, dès lundi, vous pouvez le voir en avant-première Oméga à 20h. L'amour, c'est mieux que la vie de Lelouch. Alors, il faut vraiment, je l'ai vu hein, déjà, puisque Lelouch est venu présenter le film un petit peu avant, pendant les vacances de Noël. Et bon, il faut être fan de Lelouch pour aimer. Si vous n'aimez pas Lelouch, ce n'est pas ce film-là qui va vous réconcilier avec lui. Sinon, Lynx, un documentaire qui sera proposé par les cinéastes, son documentaire sur le Lynx dans le Jura. La place du nôtre, un film d'Aurélia Georges qui me paraît assez intéressant. The Chef. Là aussi, c'est au cinéaste. Michael Cimino, Un mirage américain. C'est un documentaire. Sachez que les cinéastes proposent toute l'œuvre de Michael Cimino sur un mois ou deux mois, avec un film par semaine à peu près. Et puis, il y aura The Housewife, un film japonais. Voilà. Et puis, ça sera la semaine prochaine aussi le Festival Télérama. Alors, le Festival Télérama, c'est l'occasion de revoir des films, si vous les avez manqués, des gros succès de l'année. Par exemple, Annette, Drive My Car, Julien 12 chapitres, Dune, First Cow, La Loi de Téhéran, Compartiment numéro 6, Le Diable n'existe pas, M'adresse Parallélas, Aline, Le Sommet des Dieux, Illusion perdue, La Fracture et Nomadland, plus des... Alors, les Olympiades aussi, plus des inédits. Alors, les inédits, il y aura des avant-premières. Alors, je ne sais pas lesquelles le cinéaste vous proposera, parce qu'il y a 6 avant-premières, je crois que les cinéastes n'en proposeront que 3. Donc, à vous de bien vous renseigner auprès du cinéaste, sur le site des cinéastes. Ça devrait apparaître sans aucune difficulté. Pour ce qui est de cette semaine, moi, je vous recommande très chaudement Ouistreham et Adieu, Monsieur Hoffman. Donc, ça fait quand même 2 films à voir. Un week-end où il va faire froid, où on sera bien dans les cinémas, où ça sera chauffé, il n'y a pas de problème. Voilà, et bien sûr, ces bonnes paroles, moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. J'espère bien retrouver mon complice Pierre-Marie la semaine prochaine. Et sinon, eh ben, nous, on se retrouve normalement sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, vendredi prochain, même heure. Thank you.